Je sais que le Seigneur a un message à nous faire passer, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on a besoin, comme d'un espèce d'électrochoc, d'être secoué un coup pour pouvoir recevoir la révélation, pour pouvoir recevoir le message du Seigneur. Le manque de révélation souvent nous pousse à prendre une mauvaise direction. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour deux hommes qui ont quitté Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Les références pour le texte de ce matin, on va lire dans Luc 24, les versets 13 à 35. Il y aura aussi Luc 9, 22, Luc 9, 43 à 45. Luc 18, 31 à 33. Mais il y aura plein d'autres choses. Et il y en aura tellement qu'en fait, je ne peux pas les noter. Et parce qu'on n'aura même pas le temps d'aller les voir. Mais on va en parler. Un jour, quand j'étais en train de faire mes études, il y a très longtemps, avant de faire mon école d'infirmière, j'étais en paramédical au gymnase Numadrou à Neuchâtel. J'étais en dernière année. J'avais une très bonne moyenne générale. Par contre, je n'étais pas promue quand j'étais en cours d'année parce que il y avait la chimie et la physique qui me posaient un sérieux problème. Et travail écrit après test, ma moyenne n'arrivait pas à toucher le 4 sur 6. Et du coup, mon année était compromise. Et j'aimais tellement pas ça. De toute façon, la chimie, j'y comprenais rien. La physique, vu que c'est mélangé aux maths, franchement, c'est pas cool. Et ben voilà, c'était une grosse difficulté. Alors, je suis allée voir le directeur. Je suis allée voir le directeur et je lui ai dit, ben voilà, je vois que mes moyennes, en fait, j'arrive pas. Je pense que c'est mieux que j'arrête mon année et puis que je revienne l'année prochaine et que je la refasse. Et il n'a pas tellement épilogué. Il m'a dit, vous avez des bonnes moyennes. Allez jusqu'au bout de cette année et passez-la. Je suis ressortie de son bureau bredouille. Enfin, c'est ce que je croyais. Tout à coup, je n'avais pas le choix, il fallait que je réussisse mon année. Et dans les semaines qui ont suivi, une camarade de classe a pris du temps avec moi pendant nos pauses de midi, entre midi et 1 heure. Elle m'a réexpliqué les bases de la chimie. Mais ça veut dire qu'elle a recommencé depuis le début. Elle m'a dit 1 plus 1 égale 2 parce que. Depuis, mais le début du début, on ne pouvait pas commencer avant ce qu'elle a commencé. Et il y a tout qui s'est éclairé. Mais c'était facile, la chimie. Alors mes moyennes ont commencé à remonter. Il ne restait plus beaucoup de tests. Mais j'ai pu avoir 4,5 de moyenne générale d'année pour la chimie. Et à l'examen, j'ai fait 4. C'était des titrations, ne me demandez plus ce que c'est une titration, mais j'ai passé. J'ai réussi mon année. Je suis entrée à l'école d'infirmière et tout ce qui s'ensuit. Mais il a fallu, comme un électrochoc, et il a fallu des explications depuis le début. Parce que j'avais loupé un truc. J'ai assisté à tous les cours. Quelque part, je savais tout, mais j'ai loupé un truc. Le truc déterminant qui faisait que j'étais en train de prendre une fausse direction. Baisser les bras, jeter l'éponge et recommencer, certainement pour avoir les mêmes problèmes. Alors, c'est un petit peu l'état d'esprit de ces deux disciples qui se dirigent vers Emmaüs. On est au même jour que la résurrection de Jésus. C'est le même jour que les femmes sont allées au tombeau, qu'elles l'ont trouvé vide et que deux anges leur ont dit, mais ne cherchez pas celui qui est vivant, il est ressuscité. Ce même jour, je vous lis dans Luc, chapitre 24 au verset 13 et suivant. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades ou une douzaine de kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Deux disciples. Ce qu'on peut comprendre, déjà, il y en a un qui s'appelle Cléopas, ce n'est pas un des douze. Et ils vont rejoindre les onze à la fin de cet épisode. Donc, ces deux disciples, c'est peut-être deux des septante. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Jésus il a quitté la Galilée, il avait déjà choisi ses douze disciples, ses douze apôtres. Quand il a quitté la Galilée pour se rendre à Jérusalem, il y a une foule, il y a toujours du monde qui le suivait. Et il y a des gens qui se sont attachés à lui. Il y a des gens qui l'ont suivi vraiment fidèlement et qui ont commencé à devenir ses disciples, qui ont cette qualification, ce terme, on peut leur donner, quelqu'un qui suit le maître, qui boit ses enseignements et qui apprend de lui. Donc, ce n'était pas un des douze ou un des onze, puisque Judas, on ne le compte plus puisqu'il a trahi Jésus à ce moment-là, mais c'était quand même deux disciples. Et ils se rendent à Emmaüs. Aujourd'hui, Emmaüs, on ne sait pas où est ce village. Il y a plusieurs endroits possibles, entre 10 et 30 kilomètres environ. Donc, on ne sait pas la distance, mais on peut imaginer que ça devait être à peu près 2 heures de marche. Ça nous donne une image. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'entretiennent en chemin. Ils se racontent les choses qui se sont passées. Ils essayent de comprendre. Ils tournent les choses dans leur tête. Et ils sont tellement absorbés, en même temps, ils sont tellement déçus. Leur état d'esprit, c'est qu'ils avaient des énormes attentes. Quand ils ont vu Jésus, quand ils ont entendu ses enseignements, ils ont vu les miracles, les prodiges, ils se sont dit, mais sûrement que c'est lui. C'est sûrement lui le Messie. C'est sûrement lui le roi. Et même quand Jésus, en approchant de Jérusalem, est monté sur un ânon, tout le monde l'a célébré comme roi. Il se disait, mais c'est lui le libérateur. Seulement, il s'est fait arrêter, Jésus. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été mis dans un tombeau. Le tombeau est vide, mais Jésus, on ne le voit plus. Jésus est mort. Et ils sont dépités. Il y a l'occupant romain qui est là. Et croyez-moi, du temps de l'Empire romain, ce n'était pas facile. C'était même atroce ce qui se passait. C'était catastrophique. Et pour eux, le Messie, il devait chasser l'occupant romain. Il devait établir sa royauté à Jérusalem pour Israël. Et voilà que tous les plans se cassent la figure. Alors ils sont obnubilés par leurs pensées et par leurs préoccupations. Ils tournent le dos à Jérusalem. Jérusalem, on n'en veut plus. On tourne le dos. Les disciples, la communauté des disciples, on n'en veut plus. La croix, on ne la regarde surtout pas. Et on fonce dans une autre direction. La tête en bas, dans tout ce qui nous attriste, dans tout ce qui nous déceptionne, qui nous déçoit, on est dans la frustration. Et c'est la même chose qui nous arrive des fois à nous. Ça nous arrive qu'on est confronté à des difficultés, à quelque chose qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et ça commence à tourner dans la tête. On a une de ces espèces de bicyclettes qui n'avancent pas et ça tourne jour et nuit. On ne sait pas comment sortir de ça. On n'y arrive pas tout seul. Alors les disciples, ils sont là-dedans et à un moment donné, Jésus s'approcha et fit route avec eux. On peut imaginer que les disciples l'accueillent, parce qu'en tout cas, ils ne le repoussent pas. Jésus est avec eux, même si eux ne le reconnaissent pas, même si eux ne le comprennent pas. Jésus est à leur côté dans leurs difficultés, comme il est à nos côtés quand on vit quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et là, il commence à y avoir un petit électrochoc. C'est tellement incongru de poser cette question-là qu'il s'arrête. Il dit, « Mais est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ?» Parce qu'il faut bien comprendre que c'était la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, et qu'il y avait énormément de pèlerins à Jérusalem. C'était la fête. Donc tout le monde parlait de ce qui venait de se passer et tout le monde se souvenait de la montée à Jérusalem de Jésus sur son ânon et des acclamations qu'il est le roi et que tout à coup tout s'est cassé la figure. Mais tout le monde l'a vu, tout le monde en parle. Et là, il y a un gars qui fait route avec eux et puis il n'est pas au courant. Ça commence à faire un peu un électrochoc en disant mais t'es le seul là, t'es le seul dans cette situation. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne considèrent toujours pas Jésus. Ils ne lui demandent pas, mais tu es qui? Qui es-tu? Comment est-ce possible que tu ne sois pas au courant? Pourquoi? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies été externe à cette situation? Ils ne considèrent pas la personne de Jésus, ils ne s'y intéressent pas. Jésus, lui, sait très bien ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin de le lui raconter. C'est lui qui a vécu les choses. Il le sait. Donc, s'il pose la question, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il aimerait les aider. Il aimerait que les disciples comprennent par eux-mêmes ce qui s'est passé. Alors, il leur ouvre la porte. Il leur donne la possibilité de s'exprimer. « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Un peu comme s'il dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez compris de cette situation ?» Ou même mieux encore, « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Qu'est-ce qui vous empêche de comprendre ? Où est-ce que ça bloque ?» Sauf que les disciples, ils sont tellement pris dans leur truc, ils sont tellement toujours dans leur frustration et puis dans leur tergiversation, ils sont obnubilés par cette histoire où ça s'est tellement arrêté en catastrophe qu'ils foncent tout droit. Alors oui, ils répondent à la demande de Jésus, puis ils lui racontent tout. Mais leur analyse, elle est assez mitigée. Et je suis gentille quand je dis ça. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est Cléopas. C'est Cléopas qui prend la parole. En disant, mais es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé? Et ensuite, il raconte ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre, en parole, devant Dieu, devant le peuple. comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont crucifié. On espérait que ce soit lui qui délivre Israël. Mais voilà, ça fait trois jours que ces choses se sont passées. Il est mort. Bien sûr, il y a des femmes qui sont allées au tombeau. Elles l'ont trouvé vide. Elles ont même vu des anges qui leur ont dit « il est vivant ». En fait, ils sont en train de faire une confession de foi. Il est prophète devant Dieu, devant les hommes, il est puissant. On pense que c'est lui le libérateur. Ils sont en train de faire une confession de foi. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et pouf, il y a tout qui tombe. Les femmes ont vu des anges. Elles ont été terrorisées. Elles ont couru vers les disciples pour dire « On a vu des anges, le corps, il n'est plus dans le tombeau. » Les disciples, ils ne les croient pas, ils courent au tombeau. Ils voient que c'est exactement comment les femmes ont dit que c'était, mais ils ne l'ont pas vu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ça peut aider. Mais la foi profonde, ça vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs. Et eux, ils avaient besoin de voir. Alors que la parole, ils l'avaient entendue. Quelque chose était bouché. Quelque chose était coincé. Et nous, on est souvent pareil. On a besoin d'expérimenter. On a besoin de constater par nous-mêmes. On a besoin de voir par nous-mêmes. Alors qu'il y a peut-être autre chose. On a besoin d'un déclic pour aller comprendre de l'intérieur, pour que ce soit la parole qui convainque nos cœurs. Ce qui est terrible, c'est que les disciples, ils l'ont entendu cette parole. Les disciples, ils connaissent la parole. Et en plus de ça, en suivant Jésus, par trois fois, Jésus leur a dit qu'il devait souffrir et mourir et ressusciter. Et on peut rester dans Luc, bien sûr il y a d'autres passages qui en parlent, mais puisqu'on est dans Luc, juste dans ce livre-là, au chapitre 9, au verset 22, Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus le leur avait dit. Et toujours au chapitre 9, les versets 43 à 45. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Et on se rend compte que c'est toujours voilé. Mais Jésus l'a dit pour la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est dans Luc 18, les versets 31 à 33. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Toutes ces choses se sont passées, les disciples les ont entendues. Ils savaient aussi ce qu'il y avait écrit dans les prophètes, mais quelque chose est coincé. Même quand ça s'est passé, les yeux ne se sont toujours pas ouverts. Et parfois, c'est la même chose pour nous, parce que cette parole, on l'a en plusieurs exemplaires, on l'a dans plusieurs formats, plusieurs formes. Mais combien de fois on n'arrive pas à la comprendre, combien de fois elle est voilée pour nous. On a besoin d'une révélation. Alors voilà, le constat, l'analyse des disciples quand ils expliquent à Jésus tout ce qui s'est passé, il est vraiment déplorable. Et là, Jésus, il intervient de façon un peu plus brutale. Et c'est là qu'il y a, comme un électrochoc. Non pas que Jésus soit méchant, pas du tout, mais il sait que cette fois-ci, il faut un peu secouer les disciples. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a écouté patiemment toute cette histoire et quand enfin Cléopas il se tait, Jésus il dit « Ô homme sans intelligence !» Mais c'est comme s'il disait « Mais ô homme stupide !» C'est comme s'il disait « Mais vous êtes écervelé, vous n'avez pas de cervelle, vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas ce qu'il faut pour réfléchir. » C'est dur. C'est vraiment dur. Mais il est en train de secouer le cocotier. Hey, réveillez-vous. Vous n'avez pas l'intelligence des Écritures. Votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Il est en train de dire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait des siècles et des millénaires que c'est annoncé. Et il va un peu plus loin. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas que tout cela arrive? Ne fallait-il pas la souffrance du Christ et sa glorification? Et comme c'est difficile à comprendre, parce qu'on pense seulement à la glorification. Les disciples, ils pensaient seulement à la glorification. Ils se disaient, on va avoir un chef militaire, on va avoir un roi de la lignée de David. Il va revenir établir son règne à Jérusalem et il va mettre de l'ordre. Les Romains seront poussés, têchés, et puis il va régner un règne de justice et de paix, un règne humain. Mais ils n'avaient pas pensé à l'aspect de la souffrance. Alors Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Alors c'est peut-être écrit un peu petit. Jésus, il a raconté au travers du Tanakh. Le Tanakh, T comme Torah, Na comme Navi, qui veut dire prophète, et puis Ka ou Ra comme Ketuvim, les écrits. C'est-à-dire que Jésus il commence par la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est la Torah, c'est la loi, c'est le Pentateuque, c'est Moïse. Quand on dit « Moïse n'a-t-il pas dit ?», ça veut dire dans un de ces cinq livres, est-ce qu'il n'est pas écrit que ? Parce que ces cinq livres, c'est la loi que Moïse a reçue. C'est cinq livres qui sont attribués à Moïse. Alors Jésus, il commence par ces cinq livres. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu crée quelque chose de merveilleux, un monde magnifique, glorieux, où tout est parfait, c'est un monde parfait, merveilleux, et il crée l'être humain pour vivre dans ce monde. Mais il a tellement d'amour qu'il donne le choix à l'être humain de le choisir ou non, pour que ce soit une vraie relation d'amour. Et on connaît l'histoire, l'être humain il s'est rebellé. Alors le péché est entré dans le monde et tout a été souillé, tout a été perverti et ces êtres humains ont été chassés du jardin, chassés de ce monde merveilleux, chassés du règne de justice, de paix et d'amour, complètement chassés de tout ce qui est pur, de la présence même de Dieu. Mais depuis ce moment-là, Dieu met un plan de restauration. Dans Genèse 3:5, une des premières prophéties qui dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça veut dire qu'une femme va enfanter un jour quelqu'un qui va écraser Satan. Mais ce qu'on ne pouvait pas comprendre jusque-là, c'est que ce quelqu'un n'était pas seulement homme, mais que c'était Dieu qui allait prendre une chair humaine. Mais ensuite, Jésus il continue plus loin. Il raconte l'Exode. Enfin, même avant, en Genèse 12, il raconte Abraham. Il dit que Dieu s'est choisi un peuple. Dieu a envoyé une promesse pour faire un peuple qui va être comme un guide pour montrer aux nations qu'il y a une alliance qui est en train de se faire entre Dieu et les hommes, que toutes les nations seront bénies au travers d'Abraham, au travers d'un peuple, au travers de la promesse de restauration. Et ensuite, il rebondit sur Exode et sur Moïse. Il explique ce peuple, on va faire un peuple de sacrificateurs pour le Dieu vivant, un peuple saint. Et il explique aussi la captivité en Égypte, la captivité de l'esclavage du péché. C'est autre chose que la captivité des
Arrive à...
Romains. Ça veut dire que tout être humain est en captivité par son péché et qu'il a besoin d'une libération. Cette libération ne peut se faire que par le sacrifice. Alors, il y a eu l'exemple de l'agneau. Et puis, il continue. Puis là, il passe aux prophètes. Par tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, il explique tout ça. Il explique aussi que c'est le temps des rois, de la royauté, et qu'il y a eu le roi David, qui est comme un type de Christ, le roi David, qui est comme un exemple. Et il y a cette promesse que c'est de sa postérité que ce Messie, que ce libérateur va venir. Et David, lui, il est tellement proche de Dieu qu'il décide de construire un temple pour le Seigneur. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi qui vas le construire, c'est ton fils. Alors c'est Salomon qui le construit. Mais Dieu a dit, c'est ton fils, il aura un règne éternel. Et Salomon, il est mort. Alors on comprend, mais non, ce n'est pas lui, ce fils. Donc la construction du temple, ce n'est pas ce temple-là, ce n'est pas ce fils-là. Et Jésus explique, ce fils, c'est le Messie. Le temple, ce n'est pas un temple fait en pierre, ce n'est pas un temple fait de main d'homme. Et il continue d'expliquer avec les prophètes. Et il prend Ésaïe et il raconte que ce Messie, c'est un serviteur. Ce roi, c'est un roi serviteur. C'est un Messie, c'est un serviteur souffrant. C'est quelqu'un qui a été d'accord de se donner. Et vous pouvez lire dans Ésaïe, Ésaïe 40, Ésaïe 49, Ésaïe 50, mais surtout Ésaïe 53, où il est déjà question de la souffrance de Jésus. Dans Zacharie, Zacharie 12, 10, il est question de ceux qui l'ont percé ou transpercé. Tous les prophètes annoncent Jésus et certains annoncent clairement sa souffrance. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il souffre? À cause de cette chute, à cause de ce péché, parce qu'il fallait souffrir à notre place, parce que nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé au tout commencement dans le jardin d'Éden, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Il fallait que le serviteur descende au plus bas de l'humiliation, de la faiblesse. Et parce que pendant tout le temps de son ministère terrestre, Jésus a expliqué que le royaume de Dieu, c'est pas juste venir à Jérusalem pour mettre en place la royauté, mais c'est pour inverser les valeurs du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et la justice, c'est s'occuper du plus faible. La justice, c'est s'occuper du plus vulnérable. La justice, c'est de se donner. La justice, c'est d'abandonner sa propre vie pour servir ses frères et sœurs. La justice, c'est de confondre les choses fortes par la faiblesse. Et en montant sur la croix, Jésus s'est rendu le plus vulnérable, le plus humilié et le plus faible possible. Et il a souffert ce que personne d'autre n'a pu souffrir pour qu'en mettant notre foi en lui, on soit ressuscité et qu'on devienne réellement ce peuple de rois, de prêtres, de sacrificateurs, des enfants de Dieu. Jésus explique tout ça au travers du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, de Moïse, des prophètes et des écrits. Et les disciples sont touchés. Ils ont été bousculés en leur disant, mais est-ce que t'es stupide? Ça fait un choc, ça fait mal quand on nous dit quelque chose comme ça. Est-ce que vous n'avez pas d'intelligence? Ça les a assez secoués pour qu'ils sortent leur tête de leur tergiversation et qu'ils commencent à vraiment écouter de l'intérieur en se disant, ah ouais, mais moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, je suis pécheur. Moi aussi, je ne suis pas capable de faire ce qui est bien. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais en même temps, il y a l'espérance. Il y a l'espérance et j'ai besoin de ce Seigneur-là. J'ai besoin d'un Seigneur qui m'offre une intimité, une relation avec lui, qui m'offre le pardon des péchés. Même si je souffre, ça veut dire que moi aussi, je suis appelée à souffrir. Ça veut dire que moi aussi, ce que je vis de difficile, c'est entre guillemets normal. Et que mon espérance, ce n'est pas d'être pleinement restaurée ici sur terre, Mais mon espérance, c'est que je participe aux souffrances de Jésus et qu'un jour je serai avec lui dans les cieux. Ça change complètement. Ça change la donnée. Ça veut dire que je ne veux pas être juste restaurée pour le temps de ma vie physique jusqu'au jour de ma mort. Ça veut dire que même si je n'ai pas toute la restauration, un jour je le serai pleinement. Ma vie ne s'arrêtera pas. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Les disciples y sont vivement touchés et ils se rendent compte que le soir approche, le jour est presque sur son déclin, comme aujourd'hui. On vit dans un monde de ténèbres. Et là, ils prennent conscience. Moi, je ne crois pas qu'ils se soucient principalement de Jésus, de lui dire « Reste avec nous parce que tu vas être tout seul dans le noir. » Ils sont plutôt en train de dire « Reste avec nous qu'on ne soit pas tout seul dans le noir. Reste avec nous, mais continue de nous éclairer. Continue de nous laver par ta parole. Continue, enseigne-nous ces choses, donne-nous les choses, ce qu'on n'arrive pas à comprendre par nous-mêmes, mais viens faire cette œuvre en nous. Reste avec nous. » Et Jésus reste. Parce que c'est le cri de nos cœurs qu'il attend. Qu'on lui dise, mais reste avec moi, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mon cœur. Donne-moi de voir ce que je ne vois pas. Donne-moi de comprendre ce que je dois comprendre. Alors Jésus reste. Et il s'installe pour manger, pour partager un repas. Et à un moment donné, Jésus, il prend du pain. Et comme à son habitude, il rend grâce, il remercie pour ce pain. Il le rompt. Et il ne se sert pas. Il le donne. Il le donne à ses disciples et c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Tout à coup, ils comprennent la croix. Tout à coup, ils comprennent ce corps brisé pour être donné, pour être partagé, pour être pris, pour être, entre guillemets, consommé, pour faire corps avec. Tout à coup, ils comprennent combien Jésus s'est donné. Et il y a tout qui s'éclaire. Jésus disparaît de devant leurs yeux. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Cette fois, ils ne le voient plus et ce n'est pas un problème. Au tout début, parce qu'ils ne le voyaient pas, pour eux, plus rien n'existait, tout le plan était tombé. Et là, ils ne le voient plus, mais leur cœur brûle à l'intérieur. C'est bon, ils l'ont reçu cette révélation. C'est bon, leur vie elle est transformée. C'est bon, ils sont complètement restaurés et ils comprennent qu'ils ont pris une mauvaise direction. Alors qu'est-ce qu'ils font? On sait que le soir arrive, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est vraiment ressuscité ». Ils quittent Emmaüs, ils font demi-tour. C'est une repentance, c'est une conversion. Et ils retournent à Jérusalem, là où la croix a eu lieu. Et ils retournent dans la communauté des disciples. Et ils partagent, et Jésus continue à se manifester. Et si vous lisez le passage juste plus loin, Jésus de nouveau se présente à eux. Et il reparle des Écritures, il reparle de Moïse, des prophètes et des écrits. Il réexplique tout ça. Et depuis là, il y a tout qui commence. Jésus apparaît, disparaît jusqu'au moment de l'ascension. On est dans cette période maintenant. On est dans cette période-là. Bientôt, au mois de mai, on va célébrer l'ascension. Alors bien sûr, au niveau de notre humanité, on est après l'ascension, on est après la Pentecôte. Mais dans cette partie d'année liturgique, c'est ce qu'on est en train de vivre. Qu'on puisse réfléchir à ces choses-là. Qu'on a tellement besoin que le Seigneur nous éclaire. On a besoin d'une révélation. Et qu'est-ce qui nous donne la révélation? Bien sûr, c'est de comprendre les Écritures, mais à la lumière du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il peut agir comme il veut. Il peut agir quand on est en train nous-mêmes de méditer sa parole. Et il peut agir quand quelqu'un reçoit une parole pour quelqu'un d'autre. Et il peut agir quand quelqu'un nous donne une parole de connaissance, une parole de sagesse. Il peut agir de plein de façons différentes. Il n'est pas limité. Mais la référence, ce sera toujours la parole. Et ce qui est important, c'est qu'on comprenne cette parole, comment elle s'applique à mes circonstances, comment elle s'applique à ma vie, et comment est-ce que moi, je comprends le dessein, le projet de Jésus pour y entrer pleinement. Je crois qu'on a tous besoin de restauration à un moment donné ou à un autre. On a besoin d'éclairage. On a besoin d'être éclairé dans la parole au niveau spirituel pour avancer plus loin. On a besoin de révélation, mais souvent on a besoin de révélation pour notre vie concrète, jour après jour. Mais le Seigneur nous guide, le Seigneur nous aide. Prenez l'habitude d'aller chercher les solutions dans la parole. Dernièrement, j'ai dû avoir un entretien difficile avec quelqu'un. Je savais que ce serait difficile. Je savais que la situation était très délicate et qu'il fallait que je fasse très attention avec ce que j'allais dire. Et je me suis plongée dans les proverbes. Je me suis plongée, jour après jour. Et il y a tellement d'exhortations au niveau de la sagesse, au niveau de mettre un frein à sa langue. Comment parler quand tu es en face de quelqu'un qui est intelligent, quand tu es en face de quelqu'un qui est stupide, quand tu es en face de quelqu'un qui a telle intention. Tout est écrit dans les proverbes. Du coup, moi, j'ai repéré mes situations. Je me suis dit, ça, c'est moi. Ça, c'est lui. Ça, c'est... Et puis, je me suis approprié ça. Je me suis dit, waouh, là, il y a un avertissement, il faut que je fasse gaffe. OK, alors je vais faire comme ça. Et j'ai reçu mes stratégies parce que je suis allée chercher la solution. Et c'est vraiment ces choses-là qu'on doit apprendre à faire pour des choses concrètes de la vie. Je vais prier. Si ce matin, quelqu'un a besoin d'un électrochoc ou juste... L'électrochoc a déjà passé, mais que la personne a besoin des explications, de la révélation, que Jésus le prenne par la main pour lui expliquer les choses dans cette situation qui le préoccupe. Mais moi, je vous invite à vous lever. Que vous soyez à la maison, que vous soyez à Nord-116, levez-vous. C'est comme si c'est devant le Seigneur que vous vous levez et je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci parce que tu es la parole vivante. Tu es la parole incarnée. Et quand on écoute ta parole, quand on reçoit ta parole, c'est comme ça qu'on est transformé, parce qu'elle est agissante, parce qu'elle est vivante, parce que tu es vie, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu connais chacune de nos situations. Tu connais la situation de tous ceux qui se sont levés devant toi maintenant. Et je te demande, Seigneur, de répondre aux cris qu'il y a dans les cœurs, les cris qui montent vers toi. Je te demande que toutes les personnes qui crient à toi et qui te présentent leurs requêtes, qui te présentent leurs demandes, leur besoin d'avoir un déclic, une compréhension, quelque chose qui est accroché et qui se décroche, quelque chose qui se libère. Je te demande par la puissance de ton Saint-Esprit de donner tes solutions, de donner ton éclairage, de donner tes révélations. Je te demande un esprit de révélation qui te fasse connaître pour tous les cœurs qui sont maintenant ouverts devant toi. Je te demande de briser les forteresses qui empêchent aux yeux de s'ouvrir, qui empêchent aux oreilles de s'ouvrir, qui empêchent au cœur de s'ouvrir. Je brise les forteresses dans le nom de Jésus-Christ. Je lis l'homme fort sur chaque personne qui s'est levée dans le nom de Jésus-Christ, afin que ces personnes puissent recevoir les révélations du Saint-Esprit. Que les œuvres du malin soient brisées maintenant dans leur vie. Que le pouvoir du malin soit brisé. Que tout ce qui a été tout ce qui a été prisonnier soit libéré maintenant, que tout ce qui a été captif soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Je te demande de briser les esprits de mensonge là où il y en a. Je condamne aussi l'esprit de culpabilité. Je condamne devant Dieu. Je le place devant Dieu pour le jugement de tout ce qui est esprit mauvais, esprit impur. Esprit d'abattement, esprit de jugement, esprit de culpabilité, esprit de condamnation dans le nom de Jésus-Christ. Que les vies de chacun de mes frères et sœurs soient libérées. Jésus, j'appelle la puissance de ton sang sur chaque vie, sur chaque pensée, sur chaque cœur, sur chaque situation, sur les émotions, sur les relations. Que ta guérison, que ta restauration vienne, que ta paix vienne. Jésus, merci parce que c'est toi qui restaures les cœurs. Tu as déjà commencé à restaurer et je te demande de continuer à restaurer. Continue ton œuvre de restauration dans les cœurs. Que de plus en plus de personnes dans l'Église soient libérées. Que de plus en plus les gens soient restaurés. Que de plus en plus les vies témoignent de ta vie. Que nous puissions tous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que tu puisses te répandre dans nos cœurs. Pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit, parce que tu es tellement bon. Quand tu nous fais un électrochoc, c'est par amour, c'est jamais par méchanceté, c'est jamais pour faire mal, c'est jamais par agressivité. Tu sais très bien où sont nos limites. Tu n'iras jamais au-delà. Mais ce que tu veux toujours, c'est nous rapprocher de toi et nous guérir et nous restaurer. Merci Père. Merci Père, parce que c'est à cause de ton amour qu'on vit ces choses-là. C'est à cause de ton amour débordant. C'est toi qui as décidé que le salut il vient au travers de la souffrance de ton Fils, de celui que tu avais de plus cher. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Jésus d'avoir tant souffert pour nous. Apprends-nous à savoir comment vivre les périodes de souffrance. Aide-nous à accepter de souffrir pour toi, de la bonne manière, d'une manière juste et sainte. Apprends-nous à tenir jusqu'à la mort ou jusqu'à ton retour. Et glorifie-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.